Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui illustre, je pense, comment des résultats de recherche peuvent remettre en cause un petit peu certaines des certitudes qu'on avait pu se former sur un modèle et aussi nous conduisent dans nos activités de recherche à nous étonner a posteriori d'être parfois passés à côté de certaines observations, de certains résultats, et on s'étonne d'avoir pu passer à côté de quelque chose qui, une fois qu'on le voit, nous semble évident. Donc, dans l'équipe que je dirige à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure, on travaille essentiellement sur une bactérie pathogène, Listeria monocytogenes. Et Listeria monocytogenes, si vous en entendez parler en général dans l'actualité, vous entendez parler souvent par ce type d'alerte, c'est-à-dire soit des alertes que vous voyez dans vos magasins ou sur des sites internet dédiés qui concernent des rappels d'aliments parce qu'ils ont été contaminés par Listeria monocytogenes, qui est une bactérie pathogène alimentaire, soit par des alertes un petit peu plus sérieuses parce qu'on se rend compte que malheureusement, de temps en temps, quelques aliments contaminés par Listeria passent dans la filière alimentaire et il se déclenche alors une épidémie de quelques individus qui vont déclencher des symptômes d'une maladie grave, la listériose. Ces personnes infectées peuvent en mourir et parfois la listériose peut déclencher une épidémie d'ampleur. La plus grande épidémie de listériose à ce jour, c'est celle qui est en haut à gauche de la diapositive, une épidémie qui a tué environ 200 personnes en Afrique du Sud il y a quelques années. Heureusement, de telles épidémies restent très rares, entre autres par la surveillance attentive aussi bien de l'élevage que de la filière agroalimentaire. Alors, comment Listeria arrive dans nos aliments ? Listeria elle-même, c'est une bactérie qui initialement est environnementale. Elle vit très bien dans les lacs, dans l'environnement, mais elle a, en tout cas, un certain nombre de souches de Listeria ont une affinité élevée pour les interactions avec les mammifères et vivent très bien en contact avec les animaux d'élevage et conduisent chez les animaux d'élevage à des maladies graves qui s'appellent les listérioses et qui sont les mêmes listérioses que nous pouvons attraper lorsqu'on consomme des aliments qui ont été infectés par cette bactérie Listeria. Et comme il peut arriver que Listeria soit présente dans les animaux d'élevage, ces animaux d'élevage vont être utilisés pour la consommation humaine, que ce soit par les produits laitiers ou par la viande, et de cette manière arriver dans l'alimentation humaine. La plupart des personnes qui vont ingurgiter Listeria monocytogenes vont avoir une maladie relativement bénigne de type gastro-entérite. Le problème se pose plus pour des individus qu'on appelle immunodéprimés, soit pour des raisons de cancer, de traitement immunodépressif, ou simplement, avec l'âge, vos défenses immunitaires s'affaiblissent, et donc vous pouvez devenir susceptible à la listériose. Et un autre problème de la listériose, c'est chez les femmes enceintes, où la femme enceinte elle-même est très bien immunisée contre Listeria, enfin se défend très bien contre Listeria, mais il peut y avoir des problèmes chez le fœtus. Donc la manière dont ça se passe, après ingurgitation d'un aliment contaminé par Listeria monocytogenes, elle va descendre dans le tube digestif avec le bol alimentaire, et Listeria a la particularité de pouvoir franchir la barrière intestinale et pénétrer de cette manière à l'intérieur de votre organisme. Une fois à l'intérieur de l'organisme, elle va pouvoir infecter un certain nombre de cellules et par exemple en infectant des cellules immunitaires circulantes dans l'organisme, par exemple des macrophages, c'est des cellules qui peuvent circuler dans le sang, elle va gagner des organes en se servant de ces cellules comme véhicule, dont des organes comme le foie et la rate, dans lesquels la bactérie va pouvoir, en particulier si elle n'est pas contrée par l'immunité, donc chez les individus immunodéprimés, se multiplier pendant un certain temps et atteindre une certaine dose de Listeria dans l'organisme. Et c'est là que ça peut se compliquer et donner des conséquences graves, en particulier s'il y a eu une multiplication prolongée dans le foie et la rate, il peut y avoir un relargage de la bactérie dans le sang et le déclenchement d'une septicémie, ou bien Listeria a à nouveau la capacité de franchir des barrières de l'organisme, comme la barrière qui protège le cerveau contre les infections. Et là, elle va déclencher des encéphalites ou des méningites très sévères et qui peuvent être fatales dans environ 30% des cas chez les individus immunodéprimés. L'autre problème, c'est chez la femme enceinte où l'autre barrière qui peut être franchie par Listeria monocytogenes, c'est le placenta, et où la femme enceinte elle-même a très peu de symptômes, mais l'infection par listeria chez le fœtus va pouvoir déclencher soit un avortement, soit, si on est plus près de la naissance, une bactériémie du nourrisson avec des séquelles graves, voire une mort de l'enfant juste après la naissance. Et donc, on est en permanence dans la surveillance de la listériose, dans une sorte d'équilibre précaire entre des aliments qui sont de plus en plus surveillés, de plus en plus sains, dépourvus de listeria, il y a une tolérance zéro en Europe, mais aussi une population cible qui a tendance à être un peu plus nombreuse avec l'augmentation de l'âge de la population, ou bien les cancers, le sida, les traitements immunodépressifs. Et ceci fait qu'en Europe, on a quand même quelques milliers de cas par an de listériose qui arrivent dans les hôpitaux, et avec environ 30% de ces cas qui sont mortels, si bien qu'en 2019, donc avant le Covid, listeria représentait 53% de la mortalité européenne due à des zoonoses, bien que la maladie soit très rare. Donc c'est quand même relativement sérieux. Dans le laboratoire, on étudie la listériose sur une forme beaucoup plus réduite. On étudie la listériose à l'intérieur des cellules, parce que listeria a la capacité d'infecter les cellules de l'organisme, et c'est entre autres cette infection des cellules de notre organisme qui lui permet de franchir les barrières de l'organisme. Si vous imaginez qu'ici listeria est dans l'intestin, listeria va avoir la capacité d'obliger les cellules de l'intestin à l'internaliser, à la suite de quoi elle se retrouve dans les cellules. Et il y a eu des décennies de recherches sur listeria qui ont permis de très bien comprendre le cycle de vie de listeria à l'intérieur des cellules et la manière dont elle peut interagir avec les cellules humaines pour obliger les cellules à... pour détourner les fonctions cellulaires à son profit. Et entre autres, le cycle intracellulaire de listeria est très bien compris. Une fois qu'elle est rentrée dans les cellules, il a été décrit que listeria se retrouve emprisonnée dans un tout petit compartiment cellulaire qui est délimité par une vacuole, par une membrane, et qu'on appelle une vacuole. Et il a été décrit que listeria sort très très vite de cette vacuole, environ en quelques minutes, et fait presque tout le reste de sa vie à l'intérieur du cytosol des cellules. Et à l'intérieur du cytosol, elle va entre autres pouvoir mobiliser des constituants cellulaires qui vont lui permettre de se propulser à l'intérieur des cellules. Ici, c'est une molécule qui s'appelle l'actine, qu'elle polymérise pour s'en servir pour naviguer dans les cellules et occuper tout l'espace de la cellule. Elle va aussi s'en servir pour pousser la membrane de la cellule jusqu'à pouvoir la déformer pour entrer dans la cellule voisine. Et là, elle va initier un nouveau cycle de multiplication à l'intérieur de la cellule voisine et passer comme ça successivement d'une cellule à l'autre et se propager dans les tissus de l'organisme. Donc, tout ça, c'est relativement bien décrit, bien compris, et c'est bien compris aussi en termes de mécanismes, non plus cellulaires, mais moléculaires que la bactérie va utiliser pour détourner la cellule, en particulier parce que la bactérie va sécréter tout un tas de molécules qui s'appellent des protéines, des facteurs de virulence, qui vont lui permettre d'interagir avec son hôte et de détourner ses fonctions. La principale toxine que listeria emploie, celle qui a le plus d'effet sur les cellules, c'est la listériolysine O. C'est une toxine qui forme des pores dans les membranes, elle forme des trous. Et un des effets de la listériolysine O, c'est de déstabiliser les membranes et de favoriser la capacité de la bactérie à sortir très vite de la vacuole dont je vous ai parlé initialement pour gagner le cytosol. Et puis il y a une autre protéine qui est très connue chez listeria qui s'appelle ACTA, qui est la protéine qui permet de recruter l'actine pour permettre à la bactérie de naviguer dans le corps de la cellule qu'elle infecte. Donc déjà avec ces deux outils-là, la bactérie elle est plutôt bien équipée, elle peut rentrer dans la cellule, elle sort très très vite de la vacuole, elle arrive dans le cytosol, elle polymérise l'actine, et là elle peut naviguer dans les cellules. Et c'est le genre de choses qu'on peut voir en microscopie. Donc sous l'œil du microscope, on peut voir des listeria, par exemple ici des listeria marqués avec une fluorescence verte. Donc sur cette image de microscopie, vous avez une très grande cellule ici, avec son cytosquelette d'actine qui forme des grandes fibres, et puis la bactérie polymérise cette même actine pour former des comètes qu'on voit très fluorescentes en rouge ici et qui la posent à l'intérieur de la cellule. Et donc, par ce type d'approche, on utilise beaucoup d'approches différentes pour étudier l'hystéria, mais l'une d'entre elles, c'est la microscopie qui nous permet de voir l'hystéria à l'intérieur des cellules, et puis l'hystéria et aussi les constituants de la cellule qui interagissent avec elle. Mais si je vous parle de microscopie, il va peut-être falloir que je vous explique un petit peu plus ce qu'on voit sous l'œil d'un microscope. Donc, ce qu'on voit, plutôt sous l'objectif d'un microscope, c'est les échantillons qu'on met dessous. Mais en fonction du type de microscopie qu'on va utiliser, on ne va pas exactement voir la même chose. Si on prend un microscope optique standard, le type que vous avez probablement pu utiliser au lycée, vous allez simplement avoir une série de lentilles qui vont vous permettre de grossir l'objet que vous êtes en train de voir. Et donc, on soumet l'objet qu'on est en train de regarder à une source de lumière. La lumière est envoyée sur l'objectif et dans l'œil de l'observateur, on a simplement une image grossie de l'objet qu'on regardait initialement, et donc on regarde un objet plus gros. Donc, par exemple, ici, vous avez une cellule avec son noyau infecté par des listeria, et le film a été accéléré x100, mais ce que vous voyez, c'est des listeria qui sont en train de naviguer dans les cellules poussées par leur comète d'actine. Et là, vous voyez tous les composants de la cellule en même temps, plus les listeria, et vous voyez un mouvement, d'une certaine manière. On a uniquement grossi. Ce qui peut nous intéresser de temps en temps, c'est de pouvoir étiqueter un composant particulier pour mettre en évidence, à l'intérieur de cette cellule, une molécule précise qui nous intéresse et dont on voudrait pouvoir voir la position. Donc, pour pouvoir étiqueter des composants, là, on va raffiner la technique de microscopie pour lui ajouter, par exemple, de la fluorescence. Alors, la fluorescence, qu'est-ce que c'est ? C'est la propriété de certaines molécules, si on les éclaire avec une lumière d'une certaine couleur, de renvoyer une autre lumière dans une autre couleur. Par exemple, j'éclaire une molécule avec une lumière bleue et elle va me renvoyer du vert. Et ceci, on peut le détourner en microscopie en éclairant l'objet qu'on est en train de regarder, par exemple, avec non pas toute la lumière de la source, mais uniquement une lumière bleue. Ça arrive sur l'échantillon. Il ne se passe rien pour presque la totalité de l'échantillon, sauf là où il y a des molécules fluorescentes qui vont émettre une lumière verte qui va alors passer par l'objectif, puis l'oculaire, puis aller soit à l'œil de l'utilisateur, soit au capteur vidéo ou photographique qu'on a pu mettre. Et donc dans ce cas-là, on ne voit plus la totalité de la cellule, on voit uniquement les composants qu'on a étiquetés. Donc ici, par exemple, l'hystéria a été étiquetée en vert et puis l'actine a été étiquetée en rouge. Donc ceci, ça peut nous permettre de regarder, par exemple, des protéines sous le microscope. Donc les protéines, c'est des molécules. Il y en a qui sont produites par la cellule, il y en a qui sont produites par la bactérie. On va pouvoir regarder précisément leur position. Et ici encore, on a plusieurs techniques à nos dispositions pour regarder les protéines. La plus utilisée, c'est une technique qui va être sous un principe de photographie, où pour pouvoir étiqueter la protéine qui nous intéresse, par exemple, je voudrais pouvoir étiqueter la listériolysine O, je vais utiliser des anticorps. Les anticorps, vous savez ce que c'est? C'est ce qui vous permet de vous défendre lors d'une infection contre, par exemple, le Covid. Vous avez des anticorps contre le Covid qui vous permettent de détecter spécifiquement le Covid. Là, on peut utiliser des anticorps contre la listériolysine O. Ils vont avoir la capacité de se fixer sur la listériolysine O et elle seule. Et ces anticorps, on va les avoir modifiés pour être équipés d'un fluorochrome qui va être fluorescent à une certaine lumière. Si on fait ceci, on peut obtenir une image précise qui sera une photographie de ce qu'on est en train d'observer. En revanche, pour faire ceci, on est obligé d'avoir fixé les cellules, c'est-à-dire de les avoir tués, et donc on ne peut avoir qu'un cliché où on a nos molécules, leur position exacte dans la cellule, mais on ne connaît pas l'histoire de ces molécules, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir après. Et donc, de temps en temps, on aimerait pouvoir passer de la photographie au cinéma, et pouvoir avoir l'histoire totale de la molécule, et savoir d'où elle vient et où elle va. Donc, pour ceci, une des approches qui est possible, c'est de fusionner la protéine qu'on voudrait voir par une manipulation génétique à une protéine, une autre protéine, qui elle est intrinsèquement fluorescente et qui donc va être produite tout le temps, en même temps que la molécule qu'on étudie, et donc on va pouvoir suivre au cours du temps. Et donc, quand on fait ceci, On peut faire de la microscopie maintenant sur cellules vivantes et voir toute l'évolution de nos images et de nos molécules au cours du temps. Ceci s'est beaucoup utilisé en biologie cellulaire. Malheureusement, on a été pendant très longtemps bloqué en biologie de l'infection. Pourquoi ? Parce que les principaux outils qui nous permettaient de faire ceci, comme la protéine de fluorescence verte ou GFP, avaient un gros problème, c'est que c'est des structures très très rigides et une fois qu'elles ont été produites par la bactérie, elles ne peuvent pas être exportées depuis l'intérieur de la bactérie vers l'extérieur de la bactérie, elles ne passent pas le système de sécrétion. Et donc elles sont bloquées à l'intérieur de la bactérie. Or nous, on voudrait voir les protéines qui sont produites par la bactérie et envoyées à l'extérieur de la bactérie dans la cellule. Et donc on était bloqué. Si jamais la protéine est exportée sous une forme immature, elle ne se replie pas derrière et donc ce n'est pas fluorescent. Donc on a été bloqué très longtemps jusqu'à rencontrer un collègue du département de chimie qui s'appelle Arnaud Gauthier et qui avait développé une nouvelle protéine à propriété fluorescente qui était d'intérêt pour nous, qui s'appelle FAST et dont on pensait, d'après ses propriétés, qu'il allait pouvoir passer le système de sécrétion de l'hystéria. Alors pourquoi ? Parce qu'au lieu d'être une grosse structure très rigide comme la GFP, bien intégrée et absolument indéformable, c'était une structure plus flexible qui pouvait se déplier et se replier et dont la fluorescence était apportée par le fait de mettre une petite molécule soluble dans le milieu et cette molécule soluble devenait fluorescente une fois qu'elle venait se lier à la protéine qu'on regardait. Et Caroline Perroncan, une étudiante en doctorat dans le laboratoire, a passé quelques années à mettre au point cette méthodologie-là pour l'étude de l'hystéria monocytogénèse et elle a pu montrer qu'effectivement, FAST pouvait être sécrétée par l'hystéria monocytogénèse, qu'on pouvait la coupler à différentes protéines de l'hystéria comme ACTA ou la listériolysine O dont je vous ai parlé, et que ça permettait d'observer ces protéines en fluorescence et de faire des films. Et on pouvait après voir ces protéines s'accumuler dans les cellules infectées. Maintenant, les cellules infectées, c'est très grand, et donc quand les molécules fluorescentes viennent dedans, elles sont très diluées au départ et la fluorescence s'accumule très lentement. Et donc pendant longtemps, on ne voit pas beaucoup de fluorescence et puis peu à peu, ça s'accumule. En revanche, si on prend des compartiments de très petite taille, leur volume est très réduit et donc là, il suffit de quelques petites molécules de FAST pour voir une lumière, une fluorescence s'allumer. Et en réfléchissant avec les collègues, en particulier Nicolas Desprats au département de physique, on s'est dit qu'on pourrait détourner ceci pour essayer de mesurer avec une très grande précision la durée de vie de la vacuole d'entrée de l'hystéria monocytogénèse. Pourquoi ? En se disant, cette vacuole, elle a un tout petit volume, donc dès que l'hystéria va sécréter des protéines à l'intérieur de ceci, la fluorescence va s'allumer dans ces vacuoles, et au moment où l'hystéria va sortir de la vacuole, le tout va se diluer dans le grand volume de la cellule et on va perdre la fluorescence. Et donc, il suffit de mesurer le moment où la vacuole s'allume et puis le moment où la vacuole s'éteint et on aura la durée de vie des vacuoles. Donc, on s'est mis à faire des films des vacuoles. Donc, sur ces images, vous voyez ici des images de l'hystéria qui vont se retrouver en vert sur la figure finale et puis des images de FAST sécrétées par l'hystéria qu'on voit apparaître dans des vacuoles comme ici et qui se retrouvent en bleu dans la figure finale. Et ensuite, il suffit de suivre chacune de ces vacuoles avec un trait jaune ici, du début jusqu'à la fin, et de mesurer le temps de ceci. En faisant ceci, on a vu que la quasi-totalité des listeria s'échappaient de la vacuole en quelques minutes, avec une médiane de 13 minutes à peu près. Et puis, si on prenait des souches de listeria qui ne sont pas capables de produire la listériolysine O, listeria restait un petit peu plus longtemps dans la vacuole, elle y restait à peu près 21 minutes. Mais presque toutes les listeria s'échappaient très très vite, mais si vous regardez ce graphe, vous voyez qu'il y a certaines listeria qui restent plus d'une heure, deux heures, trois heures, même jusqu'à cinq heures dans la vacuole, sans s'en échapper. Ça nous a interpellés, puisque presque toutes sont décrites pour s'échapper en 13 minutes. Et donc, on s'est demandé si ces bactéries produisaient de la listériolysine O, qui est la toxine qui est censée les laisser sortir de la vacuole. Donc, pour savoir si ces bactéries produisaient de la listériolysine O, ça tombe bien, on a un outil qui nous permet d'imager les protéines, donc on va regarder la listériolysine O dans les vacuoles. Et en faisant ceci, on a vu que oui, les vacuoles sont marquées. Alors ici, vous le voyez en bleu, c'est très faible, mais on a quantifié la présence de listériolysine O dans les vacuoles. Et jusqu'au moment où se rompt la vacuole, il y a de la listériolisino dans les vacuoles, donc la toxine qui fait des trous est là, mais par contre, les bactéries restent dans la vacuole. Et là, c'est là qu'on a eu une très grosse surprise. Non seulement il y a de la listériolisine O, mais en plus, on a vu qu'on avait une bactérie initialement dans la vacuole, et puis après, il y en avait 2, 4, 8, 16, 32. Et la vacuole grossit sans éclater. Et ça, c'était complètement en désaccord avec le dogme, comme quoi Listeria sortait très vite de sa vacuole et ne se multipliait qu'une fois qu'elle était arrivée dans le cytosol. Et non seulement elle se multiplie, mais elle se multiplie très vite. Elle se multiplie aussi vite que dans le cytosol. Et donc, on se retrouve avec un nouveau compartiment cellulaire dans lequel Listeria est capable de se multiplier. Alors, c'est interpellant parce que la listériolisine O est là. Elle devrait permettre à Listeria de sortir. Donc, on a regardé ce qui se passait avec une souche qui était dépourvue de la listériolisine O. Et les souches qui sont dépourvues de la listériolisine O restent plus longtemps dans les vacuoles aussi. Mais par contre, elles sont incapables de se multiplier. Et donc, on se retrouve dans un contexte assez paradoxal où la toxine, elle a deux effets. Dans certains cas, elle permet à la bactérie de sortir de la vacuole. Et dans d'autres cas, elle permet à la bactérie, enfin, elle n'empêche pas la bactérie de rester dans la vacuole, mais par contre, elle permet à la bactérie de se multiplier dans la vacuole. Et elle est probablement nécessaire à faire des pores dans la vacuole pour apporter des nutriments à la bactérie pour qu'elle puisse continuer à pousser dans les vacuoles. Une autre question qu'on s'est posée, c'était d'où viennent ces vacuoles? Est-ce qu'on est bien en train de regarder des vacuoles d'internalisation? Parce qu'en effet, Listeria, elle pourrait se retrouver dans des vacuoles suite à l'entrée initiale, ou bien elle pourrait se retrouver dans des vacuoles après être passée de cellule à cellule, ou alors elle pourrait s'être fait réabsorber dans des vacuoles par un processus qui s'appelle l'autophagie. Pour essayer de savoir si nos bactéries viennent d'un processus initial d'entrée, on a utilisé un nouvel outil qui est un peu sioux. On fait produire à la cellule une protéine fluorescente qui s'appelle la YFP, qu'on a fusionnée avec une autre protéine qui est capable de lier la surface de Listeria. Donc toutes les bactéries qui à un moment ou un autre seront sorties de la vacuole et auront été en contact avec le cytosol vont venir se faire marquer à leur surface par la fluorescence de cette construction. Par contre, les bactéries qui ont été initialement internalisées, elles sont protégées par une membrane et donc elles ne sont pas marquées par cette protéine fluorescente. Et donc si on provient d'un événement d'entrée initial, on aura des bactéries qui seront uniquement oranges. Alors que si on vient d'un événement secondaire où on repasse dans une vacuole après être passé par le cytosol, on aura des bactéries qui sont oranges et bleues. Et donc, en faisant ceci, donc ici, vous voyez des vacuoles et vous voyez qu'elles sont exclusivement oranges jusqu'au moment où elles se cassent. Et au moment où elles se cassent, les bactéries deviennent bleues en attrapant la deuxième fluorescence qui était dans le cytosol. Donc ceci, ça nous indique que Listeria vient... les bactéries qui poussent dans les vacuoles viennent d'événements initiaux d'entrée dans la cellule, donc des vacuoles primaires d'internalisation et non pas d'événements secondaires d'entrée dans les vacuoles. Donc ces études-là, plus un certain nombre d'autres travaux complémentaires, nous amènent maintenant à voir qu'un mode de vie majoritaire, tel que celui qui a été décrit pendant des décennies pour Listeria et qui est très très bien compris, peut en cacher un autre. On avait un cycle de vie très caractéristique, où Listeria sortait de sa vacuole en quelques minutes et gagnait le cytosol. Et parce qu'on regardait uniquement des photos de l'infection, on n'était sans doute pas capable de déceler d'autres événements. En particulier, on passait sous silence tous les événements où on voyait des bactéries qui étaient groupées entre elles sur une photo, mais dont on n'avait pas le passé, où on n'avait pas l'avenir, on ne savait pas ce qu'elles allaient devenir. Tous ces événements-là, on les éliminait comme probablement quelque chose un problème de manipulation, un problème de fixation, quelque chose qui n'avait pas de réalité biologique. Et c'est uniquement une fois qu'on a pu faire des films qu'on a pu se rendre compte que non, il y avait une petite partie de la population de Listeria qui restait dans des vacuoles et qui allait proliférer dans des vacuoles avant de retourner à un cycle cytosolique beaucoup plus tard. Et maintenant, on continue à étudier cette nouvelle vie cytosolique et à essayer de comprendre en quoi cette vie diffère de l'autre Et en particulier, est-ce que la virulence de l'hystéria, est-ce que sa capacité à détourner les cellules est différente dans cette vacuole par rapport à la vie cytosolique, mais aussi à comprendre comment ces vésicules, ces vacuoles, sont formées, comment elles se maintiennent, pourquoi est-ce qu'elles ne se rompent pas à la différence des vacuoles dont l'hystéria s'échappe, etc. Et non seulement on se pose ce type de questions-là, mais ce n'est pas une niche vacuolaire qui apparaît. La littérature est en train d'exploser de niches vacuolaires pour l'hystéria monocytogénèse. Et d'un type cellulaire à l'autre, ce ne sont pas exactement les mêmes niches vacuolaires et pas exactement les mêmes modes de vie de l'hystéria dans une niche vacuolaire ou une autre. Donc nous, on est plutôt dans des cellules épithéliales. On va avoir ces gros compartiments dans lesquels l'hystéria se réplique très très vite et dont on essaye de comprendre comment elle se forme et la suite. Mais dans les macrophages, il existe aussi des compartiments de ce type, mais où l'hystéria pousse tout doucement. Récemment, dans les leucocytes, l'équipe de Marc Lecuy à l'Institut Pasteur a montré qu'il y a aussi une vie vacuolaire de l'hystéria et dont l'hystéria se sert pour changer les programmes des leucocytes et les obliger à vivre différemment, et ça l'aide à passer la barrière protectrice du cerveau, par exemple. Et donc, elle se sert de son passage dans la vacuole pour détourner les fonctions de sa cellule. Et il y a aussi des vacuoles que je n'ai pas représentées sur ce schéma, dans lesquelles l'hystéria se cache et devient complètement dormante, ne se multiplie plus et peut rester persistante. Et probablement que ceci, ça lui permet d'échapper à l'immunité de son hôte pendant très longtemps. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre ces diversités de modes de vie de l'hystéria à l'intérieur des cellules, et on n'a plus un mode de vie unique, mais une grande diversité de modes de vie. Donc on veut comprendre à la fois leur importance biologique, quelles vont être les conséquences sur l'infection de vivre là, mais aussi un peu leur importance évolutive. Pourquoi est-ce que l'hystéria s'est adapté, non pas à une niche, mais à plusieurs niches? Quels avantages évolutifs ça lui a conféré au cours de l'évolution pour qu'elle ait acquis ses capacités à survivre dans plusieurs niches différentes? D'un point de vue moléculaire, on essaye de comprendre les mécanismes de formation et de réparation de ces vacuoles, et puis aussi à comprendre d'où vient cette hétérogénéité. Comment est-ce qu'on trie? Comment une bactérie qui rentre dans la cellule, elle va soit aller vers le cytosol, soit aller vers une vacuole? Est-ce que c'est la cellule qui fait le tri? Ou est-ce que c'est les bactéries qui n'étaient pas exactement identiques au début et que c'est elles qui décident d'où elles vont? Ça, on ne sait pas encore et on aimerait bien y répondre. Est-ce que la virulence de l'hystéria est différente dans ces vacuoles? Et est-ce que ça peut être un mécanisme de préadaptation à une vie ultérieure de l'hystéria? C'est des questions auxquelles on s'intéresse pour la suite. Il me reste pour terminer à remercier tous les gens qui ont participé à ce projet, en particulier dans l'équipe Caroline Perron-Kahn, Thomas Petit, Simon Guette-Marquet, Julien Leblanc et Anouk Viry, qui ont tous mis la main à la pâte à un moment et découvert une partie du mode de vie de l'hystéria ou une autre. La plateforme de microscopie de Libens, évidemment, vu la quantité de microscopie qu'on fait, on est très très largement dépendant d'eux. Arnaud Gauthier en chimie, sans qui on n'aurait pas pu développer cette histoire grâce à son magnifique objet fluorescent FAST. Nicolas Desprats, qui est notre collaborateur principal en biophysique pour toutes les études de microscopie et leur analyse quantitative. Et plus récemment, nos collaborateurs à l'Institut Pasteur pour essayer d'aller vers l'in vivo et comprendre ce qui se passe lors de l'infection à l'échelle de l'organisme et non plus de la cellule. Je vous remercie. Je prendrai des questions.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Alice pour cette conférence plus qu'intéressante. On va pouvoir passer à une session d'échange avec le public. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais passer dans les rangs avec le micro.
Bonjour, merci. Je voulais savoir dans quelles conditions Arnaud Gauthier a fait ses recherches sur les protéines fluorescentes. Et est-ce qu'il avait est-ce que c'est un champ en fait qui était déjà qui était creusé pour d'autres raisons? Je voulais savoir quelle est la logique dans laquelle il a cherché cela.
La logique dans laquelle il a cherché ça. Donc Arnaud Gauthier travaille depuis longtemps en chémobiologie, donc à la frontière entre la chimie et la biologie, et il était intéressé à développer des nouvelles sondes fluorescentes pour différentes raisons, mais en particulier, ils étaient intéressés à développer des protéines fluorescentes qui soient plus petites que la GFP, qui soit insensible à l'oxygène, à la présence d'oxygène, qui se mature plus vite que la protéine de fluorescence verte, enfin qui a des propriétés différentes. Et ils sont partis d'une approche de modification d'une protéine existante qui n'avait pas de propriété fluorescente, qui était un récepteur de lumière, mais dont ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir la modifier pour en faire une protéine fluorescente en jouant sur les propriétés chimiques de cette molécule, de cette protéine. Alors, retrouver toute l'historique de comment ils s'y intéressaient, ça je ne saurais pas dire exactement.
Bonjour, du coup j'avais une question. Est-ce que ce phénomène d'internalisation avec des listeria qui ont une durée de vie prolongée dans ces vacuoles, enfin ces vacuoles ont une durée de vie prolongée, est-ce qu'on peut peut-être faire un lien vers l'endosymbiose ou pas du tout?
Je pense que dans notre cas, ça serait probablement un petit peu abusif. Alors évidemment, si, on peut toujours faire un lien avec l'endosymbiose, en sens que l'endosymbiose, donc je vais remettre le reste du public au courant si c'est possible, l'endosymbiose, c'est le fait qu'un certain nombre des constituants de nos cellules, qu'on appelle des organites, donc entre autres les mitochondries et les chloroplastes, qui sont des petites usines qui fonctionnent à l'intérieur de nos cellules, dériveraient du fait que des bactéries aient initialement infecté des cellules et étaient domestiquées par les cellules et puis soient devenues donc des composants de la cellule à part entière au cours de l'évolution. Et donc la théorie de l'endosymbiose est à peu près confirmée, que ce soit pour les mitochondries et les chloroplastes. Et donc effectivement, on pense qu'il y a eu dans ce cas-là domestication d'une bactérie intracellulaire. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les bactéries intracellulaires vont se faire domestiquer. Dans le cas de Listeria monocytogenes, on est très très loin de la domestication encore. Et il y a par contre beaucoup de bactéries intracellulaires strictes qui font toute leur vie dans les cellules, qui seraient plus propices à se faire domestiquer, si on pense à Chlamydia, par exemple. Elles ont une vie qui est en permanence à l'intérieur des cellules et qui nécessite la cellule qui ne peut pas se faire sans elle. Donc elles sont plus proches de se faire domestiquer, de devenir des symbiontes que ne le sont des bactéries facultatives comme Listeria.
Merci. Est-ce que les antibiotiques qu'on utilise actuellement contre les Listeria, on sait s'ils sont aussi efficaces sur les Listeria qui sont cachés dans les vacuoles, ou est-ce que ça pourrait être un mécanisme de résistance?
Alors, ça fait partie des choses qui commencent à être étudiées pour les seules vacuoles que j'ai oublié de représenter sur mon schéma, c'est-à-dire les listes CV, pour lesquelles il est suspecté qu'effectivement, comme c'est des bactéries dormantes, les antibiotiques soient moins actifs sur eux. Dans le cas de nos vacuoles, on n'a pas encore fait de tests dessus. La plupart des antibiotiques qui sont utilisés contre Listeria sont facilement perméants aux membranes, et donc probablement qu'ils seraient tout aussi actifs, parce que s'ils passent bien les membranes, comme on a des bactéries qui se multiplient très vite, leur métabolisme est aussi actif que dans le cytosol, et donc il n'y a pas de raison qu'elles soient plus résistantes aux antibiotiques que celles qui sont dans le cytosol. Par contre, pour les listeria dormantes, oui, là, probablement que ça peut leur permettre d'échapper à des antibiotiques. Ceci dit, jusqu'ici, Listeria est une des bactéries pour lesquelles on n'a pas de problème de résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire qu'il y a un peu de chronicité, mais Listeria est bien sensible aux antibiotiques la plupart du temps. Le problème, c'est quand on n'utilise pas d'antibiotiques, c'est qu'on a des infections chroniques, mais que les personnes ne savent pas qu'elles sont infectées, et donc ne sont pas traitées parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont infectées. Mais sinon, on n'est plutôt pas désarmé contre Listeria.
Vous nous avez dit qu'il y avait une différence entre le métabolisme de Listeria entre les différentes vacuoles, mais est-ce qu'il y a des différences significatives qui ont été observées entre les différents types de cellules, par exemple, une fois que ça passe la barrière cérébrale?
En termes de métabolisme?
Oui.
J'en sais rien. Je me tourne vers le... Mais... En termes de métabolisme, je ne sais pas s'il y a des différences de métabolisme de vitesse de prolifération, par exemple, ou d'utilisation d'un métabolisme plutôt oxydatif, enfin, plutôt respiratoire ou plutôt fermentatif, pas à ma connaissance. Il est possible que dans les... Listeria, elle pousse aussi bien avec de l'oxygène que sans. Donc si on avait des organes qui soient moins bien oxygénés, des organes plus profonds, Peut-être qu'on aurait un métabolisme un peu plus fermentatif et un peu moins respiratif. Mais je ne crois pas que ça ait été étudié. Après, pour le reste, je ne saurais pas dire. Par contre, en termes de virulence, oui, là, il peut y avoir des différences d'expression des facteurs de virulence de listeria, c'est-à-dire des protéines comme la listériolysine O ou ACTA, d'un type cellulaire à l'autre, il peut y avoir des différences.
Bonsoir. Pour la première question, importance biologique et éco-évolutive de ces nouvelles niches, vous avez des méthodes déjà... qui existent déjà pour savoir pourquoi il y a ces nouvelles niches ailleurs que chez Listeria.
Pourquoi il y a des nouvelles niches ailleurs ? Donc, ailleurs que chez Listeria, donc, il y a beaucoup de bactéries intracellulaires et beaucoup de ces bactéries intracellulaires ont des... Enfin, les bactéries intracellulaires ont des cycles de vie très variés. Donc, il y a un très grand nombre de bactéries intracellulaires qui ont des vies vacuolaires. Il y a probablement un petit peu moins de bactéries qui ont des vies cytosoliques comme Listeria. C'est le cas de Shigella aussi. Et puis, il y a pour l'instant quelques bactéries, mais finalement un nombre croissant de bactéries qui peuvent jouer sur les deux tableaux. Et donc maintenant, Listeria en fait partie, Salmonella en fait partie. Il semble qu'il y ait un certain nombre de bactéries qui aient un intérêt évolutif, adaptatif, à pouvoir ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et, dans un certain contexte, plutôt utiliser une stratégie cytosolique et, dans d'autres contextes, trouver un intérêt à utiliser une stratégie vacuolaire. Probablement que le fait de diversifier les niches, ça peut faire que si une des deux niches est compromise, par exemple, s'il y a une réponse immunitaire qui est spécifique d'une certaine niche, eh ben on a l'autre pour s'échapper, alors que si on a mis tous les deux dans le même panier, c'est plus embêtant. Mais ça, c'est des hypothèses qui sont émises maintenant du fait qu'on voit ces diversités de niches, mais pour l'instant, ces hypothèses n'ont pas encore été mises à l'épreuve.
Et justement, vous avez des techniques pour mettre à l'épreuve ce genre d'hypothèses ?
Alors, une des techniques qui pourrait être utilisée pour mettre à l'épreuve ce genre d'hypothèses, pour lesquelles on manque d'outils pour l'instant pour Listeria, mais on est en train d'essayer de les mettre en place, c'est d'essayer d'avoir des outils qui nous permettent de tuer spécifiquement les bactéries qui sont dans l'une des niches ou l'autre. Donc il faudrait produire des souches suicides qui, lorsqu'elles sont par exemple dans le cytosol, se suicident. Et donc dans ce cas, on n'a plus que la niche vacuolaire. Et on peut voir si la niche vacuolaire apporte un avantage, puisque maintenant on n'a plus qu'une des deux niches.
Bonjour. Est-ce que et comment on sait si le marquage au fluo il modifie les comportements des cellules ? Et voilà.
C'est une très bonne question. Donc, comment est-ce qu'on sait si, alors je dirais, si le marquage fluorescent modifie déjà la fonction de la protéine qu'on est en train de marquer ? Ça, c'est très important. Et ça fait partie des choses que j'ai complètement passées sous silence, mais qui font partie des validations qu'on doit faire quand on met en place un tel outil. Donc, par exemple, quand on l'a mis en place sur la listériolysine O, la listériolysine O, c'est une toxine qui fait des trous dans les cellules, des pores. Donc, c'est une hémolysine. Et donc, si on prend le surnageant qui est sécrété par Listeria, enfin tout ce qui est sécrété par Listeria dans son environnement, et qu'on le met en contact avec des globules rouges, ça casse les globules rouges. Et donc, on peut quantifier l'activité de la listériolysine O juste par le nombre de globules rouges qui sont cassés quand on met en contact le surnageant de Listeria avec les globules rouges. Et donc, on fait ça avec la listériolysine O non fusionné à la protéine fluorescente, puis on le refait avec la même quantité de listériolysine O fusionnée à la protéine fluorescente, et on voit si on casse la même quantité de globules rouges. Ça, c'est un très bon indicateur pour savoir si, oui ou non, on a changé la fonction de la protéine. Et pour chacune des protéines qu'on étudie, eh ben, on va faire un test du même type pour savoir si la protéine fusionnée a exactement la même fonction que la protéine non fusionnée. Voilà. Mais il faut réinventer le texte à chaque fois puisque chaque protéine a une fonction différente. Donc pour chacune, il faut réinventer un test.
Merci.
Bonjour. Est-ce que le fait de vivre dans l'une ou l'autre des niches est un caractère hérité ou est-ce qu'à chaque fois donc, que la bactérie rentre dans la cellule, c'est un peu un tri aléatoire de savoir si elle va sortir de la vacuole ou non ?
C'est une bonne question. Vous voulez venir travailler dessus pour savoir ? C'est une des choses qu'on aimerait savoir. Et une des choses qu'on aimerait faire actuellement, c'est presque récupérer les bactéries qui sont dans les vacuoles pour refaire des infections. Pour voir, donc pour l'instant, disons que si on met les bactéries sur les cellules, il y en a 10% qui vont aller dans les vacuoles, qui vont rester dans les vacuoles. Est-ce que si on prend celles qui sont déjà passées par les vacuoles et qu'on les remet sur des cellules, on va toujours être à 10% ou est-ce qu'on va maintenant être à 90% ou est-ce qu'on va être à 0%? Est-ce que ça va changer? Donc c'est le genre d'expérience qu'on aimerait faire pour pouvoir répondre à votre question, pour savoir si oui ou non les bactéries sont prédéterminées à la niche dans laquelle elles vont aller et si elles héritent de ça.
Merci encore Alice Le Breton pour cette intervention.